Radio Kapi. Oh, Kapi.
Blaise Jordan Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Concernant la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le président français Emmanuel Macron appelle à la reprise d'un dialogue direct entre le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Selon lui, les autres dirigeants de la région doivent être associés à ces dialogues pour une paix durable. Nous parlerons aussi de cette mésentente entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée provinciale du Congo central. Cette dernière dit n'avoir reçu aucune notification officielle de l'arrêt de la Cour constitutionnelle réhabilitant Papi Mantezolo, ancien président de cet organe délibérant, destitué du perchoir le 7 octobre 2025. Au Maniema, l'interpellation du gouverneur de l'Assemblée provinciale suscite des divisions parmi les députés. Le bureau des inspecteurs de droits de l'homme est sorti de son silence et appelle les acteurs politiques à la retenue en privilégiant l'intérêt général de la province. Pour en parler, nous recevons son coordonnateur Crispin Muyolo Ndariloko qui estime que les tensions observées entre les responsables politiques risquent une fois de plus de fragiliser la stabilité de Maniema. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le président français appelle à la reprise d'un dialogue direct entre les présidents congolais Félix-Antoine Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Selon Emmanuel Macron qui s'exprimait hier mardi au cours d'une interview accordée aux médias français à l'issue du sommet France-Afrique organisé à Nairobi au Kenya, les autres dirigeants de la région doivent être associés à ces dialogues pour une paix durable. On écoute Emmanuel Macron dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Il y a un accord de paix qui a été signé il y a quelques mois. Il n'y a pas totalement la paix si on est honnête. Bon, donc c'est aussi, il faut qu'on fasse collectivement attention. Donc que les États-Unis s'engagent, c'est très bien. Je pense qu'il faut revenir sur les principes. Il faut apaiser les choses et essayer de remettre les dirigeants autour de la table avec l'ensemble des médiateurs. En tout cas, je pense que si aujourd'hui tout le monde se précipite, parce que les Américains l'ont fait, à mettre le Rwanda au banc, il y a peu de chances qu'on convainque le Rwanda d'avoir une politique coopérative. Moi, je crois plus dans la vertu du dialogue avec les deux dirigeants principaux. Et c'est un dialogue qui doit aussi engager l'Ouganda, le Burundi, les pays de la région, et qui doit clarifier la réalité des forces en présence, la réalité des prédations économiques aussi sur l'Est de la RDC. Mais je crois qu'il faut avoir dans ce temps-là, c'est ma conviction et c'est ce que je ferai pour la France, un dialogue respectueux qui engage avec le président Kagame, le président Tshisekedi, ce travail qui remette toutes les médiations autour de la table. Mais je vous ai dit, moi, quels étaient les objectifs que je crois juste et que la France poursuit.
Ici au pays, au sud Kivu, des mouvements des combattants de l'FC 123 se sont poursuivis hier dans plusieurs localités de la plaine de la Ruzizi, dans les territoires d'Uvira. Ces combattants s'essaieraient désengager de certaines positions sans combat avant de se repositionner vers Kamanyola, dans les territoires de Walungu. Selon plusieurs sources locales, ce mouvement est suivi d'un déplacement de certains habitants ainsi que des éleveurs et de leurs troupeaux de vaches. Les détails avec Martial Papimoukeba.
Dans la cité de Kamanyola, on rapporte un afflux de combattants de l'AFC M23. Leur arrivée a provoqué un début de panique dans certains quartiers, même si, sur place, des habitants décrivent une situation encore relativement calme.
Une grande partie, massée à Kamanyola, dans des appartements, il y a certains qui ont pris la route Gomo vers Bukavu, mais les activités à Kamanyola, ça passe bien. Le trafic Kamanyola ou Vira est opérationnel. Il y a des gens qui se rendent au marché de Luvungi. S'il y a peut-être quelque chose qui pourra arriver après, mais en ce moment, vraiment rien à signaler comme incident.
Mais des incidents, notamment des cas de pillage attribués à l'AFC M23 sont signalés dans la plaine de la Ruzizi. Le chef des cités de Sangé, Fikiri Mudegapol, fait état de plusieurs faits enregistrés dans sa juridiction lors du retrait de ses combattants.
À Sangé, nous avons connu quelques cas de pillage exécutés par les éléments de l'AFC M23. Ils ont pillé le bureau du territoire, le bureau de la cité de Sangé, Kalinge, certaines maisons où on déposait les stocks de ciment et fer à béton destinés à la construction de ponts. Ils ont pillé des vaches dans les hauts plateaux et moyens plateaux de Sangue.
Ces informations sont également confirmées par des sources locales indépendantes de la région.
En Ituri, pendant ces temps, des structures de la société civile du territoire d'Arou dénoncent les incursions répétées des hommes armés en provenance du Soudan du Sud dans plusieurs villages de la chefferie de Kakwa. Dans une note de monitoring publiée ce mercredi, ces acteurs locaux parlent de pillages, enlèvements de populations, meurtres et destructions méchantes et des actes de violation graves des droits de l'homme. Ils plaident pour un déploiement rapide de l'armée dans cette région pour la protection des populations. Martial Kizabiamongo.
Les premières incursions des hommes armés à provenance du Soudan du Sud datent du 26 au 29 avril 2026 dernier dans plusieurs villages dans les groupements Rumo. Ici, ces insurgés ont pillé des chèvres, vaches, produits agricoles, matelas et biens de ménage avant de torturer une dizaine de personnes. D'après l'association de jeunes chrétiens, 5 cas de violences sexuelles sont documentés, dont les victimes sont prises en charge à l'hôpital général d'Adi. La nuit du 1er au 2 mai 2026, un autre groupe d'hommes armés, toujours en provenance du Soudan du Sud, a fait incursion dans la même entité coutumière en prenant en otage 5 personnes, dont 2 fillettes. Plusieurs civils ont été torturés et ont subi un traitement inhumain, indiquent les responsables sanitaires de la zone de santé d'Adi. Par peur, plusieurs centaines de personnes fuient leur village situé à la limite frontalière avec le Soudan du Sud vers des zones jugées plus sécurisées. Nous n'avons pas encore la réaction de l'administrateur du territoire d'Arou à ce sujet. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Zéro enfant dans les groupes armés, c'est le thème au centre d'un atelier de plaidoyer organisé ce mardi à Beni par les acteurs de la protection de l'enfant. Cette activité, initiée par la section de protection de l'enfant de la MONUSCO, en collaboration avec des organisations de la société civile et des structures étatiques, visait à renforcer l'engagement des autorités provinciales dans la lutte contre les recrutements et l'utilisation des enfants dans les groupes armés actifs au Nord Kivu. Rex Antona, l'un des facilitateurs de cet atelier, revient sur son importance au micro de Marc Marofimbo.
Il va falloir l'implication de tous. Comme vous savez que non, l'enfant est protégé par l'État, par la communauté et par la famille. La place de l'enfant n'est pas dans les groupes armés pour porter l'arme ou faire d'autres emplois au sein des groupes armés, mais c'est plutôt de rester dans la société, dans la famille, d'étudier pour son développement et pour garantir la survie et l'avenir de la République demain. La communauté a une grande responsabilité, c'est celle d'empêcher à ce que non leurs propres enfants puissent aller dans les champs de bataille, dans les champs des hostilités, parce que ce n'est pas leur place. Et dans les cas d'espèce, j'insiste sur le recrutement et utilisation d'enfants. Donc, aucun groupe armé a le droit d'utiliser les enfants. Nous venons, n'est-ce pas, au travers de cette activité de plaidoyer, de sensibilisation, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités afin de garantir la protection des enfants en les libérant au sein de leurs rangs pour leur retour en famille.
Les organisateurs espèrent que cet atelier débouchera sur des actions concrètes pour renforcer la protection des enfants dans les zones affectées par les conflits au Nord Kivu. L'Assemblée provinciale du Congo central affirme n'avoir reçu aucune notification officielle de l'arrêt de la Cour constitutionnelle réhabilitant Papi Mantezolo, ancien président de cet organe délibérant, destitué du perchoir le 7 octobre 2025. Le rapporteur adjoint de cette institution, Guilin Pantouchassa, a fait cette mise au point ce mardi devant la presse à Matadi. Il a également affirmé que le bureau de l'Assemblée provinciale demeure attaché au respect des décisions judiciaires ainsi qu'au bon fonctionnement des institutions de la province. Guy Panzouchassa est au micro d'Élise Kavira.
Nous, l'Assemblée provinciale du Congo central, nous ne nous opposons pas aux décisions de la Cour constitutionnelle, sauf que les arrêts doivent être notifiés aux parties prenantes. Jusqu'à ce jour, l'Assemblée provinciale n'est pas en possession de la notification de la Cour constitutionnelle. Nous voulons avoir cet arrêt-là pour que nous puissions l'appliquer. Tant que nous n'avons pas cette notification, les choses demeurent comme telles. Et pour terminer, nous invitons les députés provinciaux à participer à la plénière qui sera présidée par le président Victoire Swami. Et au cours de la plénière, nous allons traiter du réquisitoire du procureur général contre le gouverneur de province.
La plénière consacrée à l'examen du réquisitoire du procureur général contre le gouverneur est programmée pour ce mercredi 13 mai 2026. Projet d'infrastructure du programme sino-congolais, les travaux de construction des rocades de Kinshasa évoluent progressivement. La première ministre Judith Suminwa l'a constaté ce mardi lors d'une visite d'inspection sur les chantiers de la rocade sud, longue des 73 kilomètres reliant l'avenue Njoku à Kimbanseke jusqu'à Lutendele dans la commune de Mongafula, d'un coût global estimé à 395 millions de dollars américains. Ce projet exécuté par l'entreprise chinoise Grec 8 sous la maîtrise d'ouvrage de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT vise à désengorger Kinshasa et améliorer la mobilité entre l'Est et l'Ouest de la capitale. Selon l'ACGT, près de 42% des travaux sont déjà réalisés. Lancé en juin 2024, le chantier devrait s'achever en septembre 2027. Reportage de Grace Hamzati Massanzi.
Le changement est visible. Là où il n'existait autrefois ni route ni tracé, s'étend aujourd'hui une large voie en construction traversant plusieurs quartiers périphériques de Kinshasa. Au fil du parcours, la délégation conduite par Judith Suminwa effectue plusieurs arrêts techniques, notamment sur les ponts en construction d'Injili, Lukaya, Mfuti et Ngudiabaka. Casque de chantier sur la tête, autorités et ingénieurs descendent sur les terrains pour évaluer l'évolution des travaux. Autre étape importante, Mitendi, où sera construit un échangeur destiné à fluidifier la circulation et faciliter l'interconnexion avec la route nationale numéro 1. Judith Soumino adresse son constat.
Nous avons commencé l'entrée de la rocade au niveau du quartier Njoku vers Bouma. Nous avons continué toute la route de la rocade et on a vu que les travaux étaient bien avancés. On a juste le problème d'expropriation au niveau de Njoku, dans cette zone-là, où il va falloir finaliser le processus d'expropriation et d'indemnisation des populations. Et nous avons continué jusqu'ici à Mitendi, où il va y avoir un périphérique qui va permettre en fait de se passer en dessous de la Nationale 1 pour continuer jusqu'à pompage et Lutendele.
Au-delà de la mobilité urbaine, ces projets visent aussi à renforcer l'interconnexion entre Kinshasa et d'autres provinces, notamment via la RN1.
Au Kasaï central, le projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga-Puruk a lancé les travaux sur 10 sites érosifs couvrant une quarantaine de têtes d'érosion dans la ville de Kananga. L'annonce a été faite mardi par le coordonnateur de ce projet du gouvernement congolais, financé par la Banque mondiale. Un autre volet du programme concerne l'ENDA. L'indemnisation des personnes affectées par ces travaux. À ce jour, 209 personnes sur les 233 concernées ont déjà reçu leur compensation. Le point avec André Katendengala Mouloumé.
Au quartier du Kongaï, dans la commune de Lukonga, plusieurs ménages affectés par les travaux du Puruk ont bénéficié d'indemnisation. Certains affirment que cet appui leur a permis d'acheter de nouvelles parcelles et de se réinstaller. Ils expriment leur satisfaction.
Nous vivons dans une grande souffrance, surtout pendant la pluie. Cela nous a même causé des problèmes d'hypertension. Mais aujourd'hui, nous avons acheté une bonne parcelle.
C'est une première à Kananga. Beaucoup ont été contraintes de se déplacer et d'autres ont même perdu la vie dans ces érosions.
Le coordonnateur du projet explique que cette indemnisation vise à soutenir les personnes dont les parcelles sont englouties par le ravin ou celles situées sur les voies d'accès utilisées par les engins pour atteindre les sites érosifs. L'objectif est de leur permettre de se reloger et de poursuivre leurs activités dans des conditions normales. Jean-Michel Mbunku.
Lorsque nos travaux ont impacté le bénéficiaire, nous devons leur donner les moyens pour qu'ils puissent se réinstaller ailleurs dans des conditions décentes.
Il annonce également que dans un délai d'un mois et demi, les travaux seront lancés sur 13 autres sites pour un total de 70 têtes d'érosion à traiter. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Okapi.
Et puis, au Kasaï oriental voisin, au grand marché de Mbujimayi, un produit du quotidien devient de plus en plus difficile à trouver. Le papier hygiénique, la rareté de ces produits observée depuis plusieurs jours, entraîne une flambée des prix qui inquiète aussi bien les commerçants que les consommateurs. Esther Ndalafina pour le reportage.
Selon plusieurs vendeuses rencontrées sur place, les stocks se sont brusquement réduits après une rupture d'approvisionnement chez les grossistes. Résultat, un paquet de 10 rouleaux qui se vendait entre 9 000 francs congolais se négocie aujourd'hui à 14 000, parfois 15 000 francs congolais selon les stands. Témoignage d'une vendeuse.
Je suis au marché Sénis. Je vends des produits d'alimentation. Le papier hygiénique est devenu rare sur les marchés. On vendait à 8 000, maintenant nous vendons à 15 000, 14 000 sur le marché.
Du côté des acheteurs, la hausse passe mal. Certains affirment avoir réduit leurs achats ou se tourner vers des alternatives moins coûteuses au risque de compromettre l'hygiène familiale. Kenjo Mukende, grossiste au grand marché Wetrafa, évoque des difficultés d'acheminement depuis Lubumbashi aggravées par l'état des routes.
Nous sommes en difficulté pour acheminer ça en Bujumbashi. Moi j'achète à Lubumbashi. Vu l'état des routes, je ne peux plus amener les grandes quantités ici.
En attendant, vendeurs et consommateurs tentent de s'adapter dans l'espoir d'un retour rapide à la normale. Esther Dalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Bénin, Soumaïla Sounon Bourke, ancien député du principal parti d'opposition, les démocrates, a été condamné ce mardi 12 mai 2026 à 5 ans de prison et une amende de 10 millions de francs CFA par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Kiet de Cotonou. Les tribunaux lui reprochent des faits d'apologie des crimes contre la sûreté de l'État et d'incitation à la haine et à la violence. À l'origine, un message posté dans un groupe WhatsApp le 7 décembre dernier, jour de la tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon.
L'invité.
Monsieur Mouimouilea Kabala Jean-Pierre, il est président des géomètres du Maniema et chef de bureau technique du cadastre. Il a montré le rôle d'un géomètre dans la communauté et a plaidé pour l'implication des autorités contre les autres services qui s'ingèrent dans les affaires foncières. Au micro de Florence Kizalunga.
Mouiwila Kabala Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, bonjour maman journaliste.
Dites-nous, qui est géomètre et c'est quoi son rôle dans la communauté?
Un géomètre, c'est un agent de l'État. Une personne en qui l'État a placé sa confiance pour descendre sur terrain, afin de mesurer les parcelles, afin de borner les parcelles, afin de faire des délimitations. Et aussi, après les travaux de terrain, quand il rentre au bureau, il produit un rapport. Et donc, il établit les PV de constat des lieux, PV de mesurage et bornage, PV de mise en valeur. C'est ça son grand rôle.
Toute une journée du 13 mai vous est dédiée. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous?
Pour moi, je suis heureux que l'État ait songé à nous. Parce que ce jour, c'est un jour auquel nous nous souvenons de ce qu'un géomètre doit faire et ce qu'il doit être. Donc, c'est une journée qui nous aide à mettre en pratique officiellement devant le public ce que nous avons appris cette journée-là. Ça nous aide à officialiser le rôle d'un géomètre. C'est une journée qui fait notre publicité au monde. Elle nous aide à nous faire connaître au monde afin que ce monde-là sache qu'il y a une certaine catégorie de gens qui sont chargés de ce que nous avons déjà énuméré ici.
Qu'en est-il alors de la situation du géomètre ici en province?
Bon, quant à la situation du géomètre ici en province, nous savons que nous sommes en train de travailler, mais difficilement. Nous travaillons difficilement. Nous sommes au nombre de 42. Au départ, il n'y avait qu'un seul géomètre. Mais après, la promotion qui avait suivi, c'était 22. Aujourd'hui, nous sommes maintenant à 42. Les problèmes que nous avons ici, avec les 42 géomètres, nous manquons les instruments de travail. Nous manquons les outils de travail. Pourquoi? Nous avons besoin des ordinateurs. Nous avons besoin des maîtres tirant laser. Nous avons besoin des lasers. Nous avons même besoin des niveaux à lunettes. Donc, pour moderniser le travail que nous faisons et pour mieux le garder dans les fichiers au lieu d'avoir beaucoup de papiers dans les étagères.
Bien que vous avez des difficultés, mais quelles sont les innovations que vous avez déjà amenées dans la province?
Comme innovation dans la province, la première innovation qui m'a forgé, c'est d'abord cette arrivée de l'École nationale du cadastre ici. C'est une innovation dans notre province. L'autre innovation, c'est laquelle? Le fait que nous commençons maintenant à apprendre les choses que nous ne savions pas. comment utiliser les logiciels, les numérisations, ainsi de suite. C'est aussi une innovation qui va aider à la province d'aller de l'avant. Et puis, ce que je peux dire encore comme innovation par rapport au nombre de géomètres qui étaient ici, la façon dont on travaillait. Mais cette fois-ci, ça a changé. Parce qu'avec 2 géomètres, vous voyez ce que toute une division peut faire. Mais avec 10 ou 20 géomètres, ce que ça peut faire. C'est aussi une innovation.
Monsieur Jean-Pierre, il s'observe dans d'autres siècles que vous, les géomètres et d'autres services, vous avez toujours des conflits, des mesurages, des terrains. Est-ce que cette situation s'observe aussi au maniement?
En tout cas, cette situation est presque générale. Il n'y a pas que le conflit de mesurage, mais il y a conflit même d'attribution des terrains. Il y a d'autres services qui ne sont pas attitrés, qui distribuent le terrain, qui mesurent le terrain, qui les délimitent. Et il y en a même ceux qui sont en train de borner, alors que ce n'est pas à leur compétence. Il y a l'urbanisme, il y a les chefs de quartier, les chefs de bloc, les administrateurs, ainsi de suite. En tout cas, nous leur demandons de cesser ce mouvement-là. Nous avons besoin que chacun respecte ses attributions et là, le service va aller de l'avant.
Alors, à ces géomètres qui vous écoutent en ce moment, qu'est-ce que vous leur dites?
Aux géomètres, je voudrais leur dire seulement d'éviter de travailler comme des brebis galeuses. Il faut qu'ils respectent les attributions qui leur ont été données, qu'ils respectent les tâches qu'ils doivent remplir, qu'ils se donnent aussi la peine de connaître ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'il y en a parmi nous, parce que ce n'est pas un secret, il y en a qui, quelqu'un ne sait pas comment dessiner, mais il dessine ce qui n'est pas bien. Alors que entre nous, nous devons nous entraider, poser des questions, et puisqu'on peut bien s'orienter, parce que l'apprentissage ne s'arrête pas, parce qu'on a eu son diplôme de géomètre, on s'arrête. Non, je pose seulement une condition aux géomètres, qu'ils se donnent la peine de travailler comme il le faut, comme ils sont demandés par les services.
Monsieur Mouiwila Kabala, Jean-Pierre, merci.
Vous autant, je vous remercie, maman journaliste.
Nous avons reçu dans ces studios Monsieur Mouiwila Kabala Jean-Pierre. Il est président des géomètres du Maniema et chef de bureau technique du cadastre. Il a montré le rôle d'un géomètre dans la communauté et a plaidé pour l'implication des autorités contre les autres services qui s'ingèrent dans les affaires foncières. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à ce journal qui était coordonné par Élisée Chikotachivueta et supervisé par Alain Huron-Monchige et mis en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.